France Culture, l'esprit public, Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, les élections municipales approchent, la présidentielle se prépare. Nous serons avec la directrice des études France à l'Institut Montaigne, Blanche Le Ridon, l'expert associé à la Fondation Jean Jaurès, Raphaël Yorca, l'historien Baptiste Roger Lacan et la magistrate Magali Lafourcade. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Julien Moulet.
Je ne réussissais pas à convaincre les Havrais qui me connaissent. Je ne serais pas dans la meilleure position pour convaincre les Français qui peut-être me connaissent moins. Très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit
donc
l'évidence.
Vous ne seriez pas candidat à l'élection présidentielle.
Une fois qu'on a dit ça, on a dit l'évidence. Mais le sujet d'une élection, ce n'est pas tellement le candidat. Le candidat, les Havrais et les Havrais me connaissent. Le sujet d'une élection, c'est la ville.
Édouard Philippe, maire sortant du Havre, candidat à un troisième mandat dans la ville de Seine-Maritime. Il lançait sa campagne mercredi 28 janvier, ici au micro de France Télévisions. Un symbole de la double élection qui va nous intéresser ce matin. Les élections municipales d'abord dans 6 semaines exactement, les 15 et 22 mars. Véritable test pour les maires sortants, vainqueurs de 2020, écologistes et socialistes notamment à la tête des grandes villes, mais aussi laboratoire pour l'Union des droites comme à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Premier scrutin également depuis la promulgation en août dernier de la loi PLM Paris-Lyon-Marseille qui permet d'élire les maires des 3 plus grandes villes de France directement sans passer par le maire d'arrondissement. Scrutin essentiel enfin 6 ans après celui organisé en 2 temps, mars et juin en pleine pandémie de Covid-19, comme une revanche à prendre dans les urnes. Attention, 10 millions d'entre nous ne sont pas ou mal inscrits sur les listes électorales. Il reste encore cette semaine jusqu'au 4 et 6 février pour s'en préoccuper en ligne ou en mairie. Scrutin majeur car le dernier, officiellement, sauf si une dissolution intervenait entre-temps, avant la présidentielle de 2027. Elle aussi commence à s'organiser. La gauche hors LFI a donné la date de sa primaire, ce sera le 11 octobre. Mais les poids lourds n'en sont pas. Le centre organise l'après-Macron avec difficulté. Embouteillage également à la droite de la droite où Reconquête et le RN sont en concurrence, tandis que le sort de l'une des favorites, Marine Le Pen, sera scellé cet été. Comment lire et lier ces deux scrutins? Nous avons une heure pour en parler. Bonjour Raphaël Yorca.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, enseignant à Sciences Po. Vous co-signez ces derniers jours une étude pour le laboratoire Destin Commun, intitulée Fierté française, au-delà du mythe d'un pays fragmenté. Et je cite votre livre, le roman National des marques, c'était en 2023 aux éditions de l'Aube. Bonjour à vous Blanche Le Ridon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des études France de l'Institut Montaigne, spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles, enseignante à Sciences Po. Et l'Institut Montaigne a sorti mercredi dernier un rapport « Démocratie, les nouveaux chemins du civisme ». Peut-être qu'on en parlera lors de cette émission. Bonjour et bienvenue à vous, Baptiste Roger Lacan.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes historien chargé de recherche à la Fondation Napoléon. Vous êtes également le directeur de l'ouvrage collectif « Une nouvelle histoire de l'extrême droite » paru au Seuil en octobre dernier. Et j'accueille Magali Lafourcade. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, magistrate, présidente de l'Institut français des droits et libertés. Votre dernier ouvrage, « La justice en procès, les populistes à l'assaut de l'état de droit au petit matin » paru au mois de janvier. Merci à tous les quatre d'être avec nous ce matin et merci à vous de nous écouter comme tous les dimanches. Quel scrutin allez-vous scruter pour ces élections municipales 2026, Raphaël Yorca?
Alors je vais regarder les villes un peu traditionnelles. On va regarder un peu les Paris, les Lyon, les Marseille. J'aurai un œil attentif à ce qui se passe à ma ville d'origine, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et je regarderai peut-être les villes comme Le Havre, comme Toulouse, comme Bordeaux, comme où il y a tout un tas de d'enjeux. Mais on aura largement le temps d'en parler, je crois, dans cette émission.
Blanche Le Ridon.
Oui, moi aussi, comme Raphaël Yorca, effectivement, Paris-Lyon-Marseille, ne serait-ce que parce que les modalités du scrutin ont changé depuis l'adoption de la fameuse loi dite PLM. Au-delà, moi, il y a une ville en particulier qui m'intéresse, c'est la ville de Toulon. Toulon, vous le savez peut-être, en 95, il y a une trentaine d'années maintenant, première ville de plus de 100 000 habitants remportée par un maire FN, Jean-Marie Le Chevalier à l'époque, et qui est aujourd'hui une ville qui pourrait basculer à nouveau côté Rassemblement National avec la candidature de Laure Lavalette. Avec une particularité, et je pense qu'on en reparlera pendant l'émission, c'est que comme beaucoup, Madame Laure Lavalette a... semble-t-il, le parti politique honteux, puisque, comme énormément de candidats, et notamment dans les grandes villes, ce qui est plutôt rare, ce qui était le cas majoritairement dans les petites villes pour les scrutins précédents, mais elle veut partir sans étiquette. Et moi, ce qui me frappe, peut-être pour commencer un petit peu une note d'ambiance sur la séquence, c'est cette espèce d'affaissement du politique et ce désir de s'en éloigner. Peut-être qu'on en parlera aussi quand il s'agira d'évoquer le grand meeting de Gabriel Attal cette semaine, ou cette capacité qu'ont les candidats à l'élection municipale de se dissocier le plus possible des étiquettes partisanes ce qui, je crois, crée une drôle de configuration à l'approche de l'élection présidentielle. Mais oui, au-delà de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse aussi, moi qui est la ville où je suis née, où j'ai grandi, que je vais regarder avec attention. Je crois que Toulon, pour le risque d'une bascule à nouveau côté Rassemblement National, doit être regardé avec beaucoup de vigilance.
Magali Lafourcade.
Alors, dans la même idée que Blanche-Héridon, j'ai regardé Fontainebleau, où il y a un maire horizon qui laisse le flambeau à son premier adjoint et qui refuse d'utiliser son étiquette. Donc, je trouve que c'est intéressant. Bon, c'est une ville qui est de tradition un bastion de centre-droit, 15 000 habitants, et pour ne pas regarder que les très grandes villes. Et puis aussi, donc, Montpellier, qui est ma ville, la ville où j'ai grandi, parce que là, c'est 500 000 habitants. Et là, on voit la composition de la gauche. On a un maire sortant PS contre tous les autres. Et donc, ce sera intéressant de voir quelle lisibilité on a dans la perspective municipale par rapport ensuite à une échéance qui est très proche. Et cette proximité temporelle, elle est rare, puisque la dernière fois, c'était 2001, où on avait cette proximité entre les présidentielles et les législatives, ce qui donne un risque de nationalisation des débats et donc d'illisibilité s'il y a des oppositions sur le terrain qui après font cause commune au moment des présidentielles.
Baptiste Roger-Lacan.
Je crois que, comme tout le monde, je regarderai Paris et Lyon, évidemment, d'autant que ça va être deux élections assez animées dans un cas comme dans l'autre. Mais ensuite, j'ai un tropisme, moi, pour ma part, assez provençal. Et donc, je vais regarder avec attention Marseille, où le Front National, enfin le Rassemblement National, est annoncé très haut pour l'instant, et où, dans l'hypothèse d'une triangulaire au second tour, il pourrait s'imposer, ce qui serait une bascule énorme. Et puis, deux autres métropoles provençales, Aix-en-Provence, qui historiquement est une ville où le RN est très bas, mais qui, dans un moment d'extrême fragmentation des candidatures, pourrait donner sa chance au Rassemblement National. En tout cas, il faut le suivre, puis c'est quand même une ville où on mesure le fait que le RN, depuis quelques années, mord de plus en plus sur l'électorat bourgeois, ce qui faisait qu'il y avait une immunité aixoise au RN, c'était une ville très bourgeoise, et ça change depuis les élections de 2022. Et puis Nice, dans lequel on a une compétition fratricide entre des anciens de l'UMP qui ont fait des choix divergents, puisqu'on a Christian Estrosi, qui est une des figures d'horizon aujourd'hui, et Éric Ciotti, qui lui, pour le coup, est parti avec Arzé à Gage dans la galaxie du Rassemblement National.
Christian Estrosi, maire sortant. Eh bien, on va tout de suite écouter l'une des candidates à Paris. Peut-être que ça vous inspirera tous les quatre.
Moi, je suis candidate pour devenir maire de Paris. Mon ambition, c'est que le 22 mars, je sois élue, et que le 23 mars, je sois à l'hôtel de ville, en train de travailler au service des Parisiens.
D'accord, si vous êtes conseiller municipal, attention, ça filme, ça enregistre, on archive. Est-ce que vous pouvez dire, je ne serai jamais candidate à l'élection présidentielle de 2027?
Elle est très étonnante, cette question. Jamais. Comme ça, je dois dire jamais de la vie. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je dois me prononcer. Donc, prononcez-vous sur le reste de votre carrière.
Éric Zemmour, c'est le candidat naturel de votre camp?
Ah, totalement.
Totalement.
Ah oui, absolument.
Merci beaucoup, Sarah Knafo.
Merci à vous.
Sarah Knafo, candidate à la mairie de Paris, eurodéputée Reconquête, ici sur le plateau de France Info, mercredi 28 janvier. Voilà quelqu'un qui zappe, qui gomme complètement son appartenance partisane Reconquête pour faire une campagne pop avec un slogan « La ville heureuse ». Comment l'expliquez-vous, Raphaël Yorka ?
Effectivement, l'exemple de Sarah Knafo à Paris est un exemple très intéressant de cette articulation entre différents enjeux municipaux d'un côté et nationaux de l'autre. Parce qu'on a quand même le sentiment que Paris, pour Sarah Knafo, n'est pas du tout une fin en soi, mais un moyen, comme elle l'utilise ce scrutin-là, comme une façon de modifier assez profondément, c'est une tentative en tout cas, de l'image qu'elle véhicule et que Reconquête véhicule. Et je crois qu'elle utilise trois leviers. Le premier levier de cette candidature à Paris, c'est d'abord de gagner en notoriété. C'est-à-dire que lorsqu'on se présente dans une élection aussi
centrale
et qui a l'attention médiatique, elle a le droit aux matinales radio, aux interviews dans la presse et même honneur assez exceptionnel d'avoir le droit d'annoncer sa déclaration de candidature au TF1, alors même qu'Emmanuel Grégoire, le favori pour l'instant des sondages, n'a pas eu du tout le droit à ce type d'honneur. Donc d'abord gagner en notoriété. Ensuite, deuxième levier très important quand on est un candidat d'extrême droite, susciter la bienveillance, la sympathie, voire le soutien de tout un tas de personnalités, de tout un tas de décideurs, de tout un tas de leaders d'opinion, comme une façon de, d'une part, neutraliser les critiques et d'autre part, d'étendre son espèce son aura de notoriété et de sympathie dans des cercles auxquels elle n'était pas forcément habituée. Je l'ai vu s'afficher en duo avec un certain Philippe Monneret, qui est une légende française du monde de la moto. On a vu Laurent Deutsch, qui n'a pas caché son enthousiasme devant la proposition défendue par Sarah Knafaud de réouvrir la circulation automobile sur les voies sur berge. Michel Leeb, le comédien, qui a posté un petit commentaire sur une vidéo de campagne en disant « je voterai pour vous ». On a vu, plus surprenant, Laetitia Hallyday, M. Pokora, qui ont liké certaines publications de la candidate Sarah Knafaud. Donc on le voit, il y a tout un tas de personnalités auxquelles on ne rattachait pas du tout Reconquête, qui sont en train de s'intéresser à cette campagne. Et dernier levier, et c'est ce que vous disiez en introduction, chère Astrid de Villene, dernier levier qui consiste à déplacer l'imaginaire traditionnel de l'extrême droite vers de tout nouveaux territoires. C'est son slogan « une ville heureuse ». Alors, beaucoup de commentaires ont été faits sur le fait qu'elle ait copié Emily in Paris d'un côté et la campagne de Zohran Hamdani à New York. Mais le plus important, c'est de comprendre le déplacement. C'est-à-dire que Éric Zemmour, on s'en souvient peut-être de la tonalité de sa campagne 2022, il y avait quelque chose de très grave, de très menaçant. Sa première affiche, c'était une affiche noire, avec son visage qui apparaissait. Donc, il y avait toute une tonalité qui n'était pas du tout dans la préemption de ce langage un peu sautillant que l'on voit dans la typographie, que l'on voit dans la façon de mettre en scène ses vidéos sur les réseaux sociaux. Donc il y a comme ça tout un nouvel imaginaire qui est en train de d'incarner Sarah Knafaud. Alors pour quel résultat très rapidement? Pour l'instant, dans les sondages, elle est créditée entre 8 et 9%, ce qui n'est pas rien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de frémissement. Et je constate que dans le baromètre politique Verian Le Figaro, qui teste ce qu'on appelle les codes d'avenir, eh bien elle perd 3 points entre décembre et janvier. Ce qui veut peut-être dire que tout le monde n'est pas forcément dupe du procédé.
Blanche Loridon,
ce qu'a dit Raphaël Yorka est extrêmement révélateur d'un point, c'est-à-dire que cette campagne, elle est essentiellement axée sur des enjeux de communication. C'est-à-dire que là, on n'a absolument pas parlé de ce que pouvait contenir son programme, et on voit que là aussi, on a une campagne qui se déplace sur ces enjeux-là, au détriment peut-être des enjeux de fond. Et par ailleurs, si on regarde un petit peu les propositions qu'elle a pu formuler, on assiste aussi, sur le fond, à un désir d'émancipation, effectivement, de ce qui faisait les fondamentaux du programme de Reconquête, pour aller sur des choses qui peuvent paraître plus consensuelles. Et d'ailleurs, j'évoquais Toulon au début de l'émission, c'est un petit peu la même chose. On a ce désir de s'émanciper de programmes qui pouvaient paraître extrêmement durs, très axés sur les questions identitaires, sécuritaires, et qui ont laissé, par ailleurs, si je me replace dans le contexte toulonnais, un souvenir très très négatif, puisque Jean-Marie Le Chevalier, qui a été maire entre 1995 et 2001, ne s'est même pas qualifié, il me semble, au second tour lors de l'élection municipale de 2001. Et on sait qu'il avait axé l'ensemble de sa campagne sur la préférence nationale partout où la loi le permet, sur la préférence aux Toulonnais de souche et sur le refoulement systématique des étrangers en situation irrégulière, notamment des centres sociaux et d'hébergement. Et là, encore une fois, si on regarde la campagne et le contenu des programmes de Laure Lavalette, on voit une brigade de nuit pour la police municipale, un plan quinquennal pour la voirie ou un soutien pour les associations et des référendums pour les habitants. Donc on est dans un esprit qui est beaucoup plus soft et qui s'éloigne des fondamentaux de l'extrême droite telle qu'on les connaît. Mais moi, vraiment, ce qui me frappe, c'est cette dissociation de l'étiquette partisane. Et c'est là où l'articulation avec la présidentielle à venir, elle est quand même délicate. C'est-à-dire que vous pouvez pas, matin et soir, sur le champ de la campagne municipale, vous toujours revendiqué d'un apartisanisme au-dessus des partis et des querelles politiques, mais il y a un moment donné où il va falloir, d'une façon ou d'une autre, renouer avec l'idéologie et le politique quand on se lancera dans la campagne de 2027. Et donc je me demande comment est-ce que les uns et les autres vont réussir à orchestrer tout ça pour après s'être en quelque sorte désavoué durant cette campagne municipale.
Baptiste Roger Lacan, vous qui, je le disais, venez de faire paraître une nouvelle histoire de l'extrême droite, comment observez-vous cette évolution, si c'en est une à vos yeux ?
Je suis pas sûr que ce soit une évolution. Je pense que ça a deux faces en fait. Ce qu'on voit avec Reconquête depuis quelques années permet d'analyser deux faces du discours de l'extrême droite. Effectivement, la campagne d'Éric Zemmour en 2022 était caractérisée par d'abord une extrême violence. Elle était très travaillée par le thème de la décadence, par le thème du déclin, par l'idée que la France s'était continuellement effondrée depuis les années 60. Et si on lisait entre les lignes ce qu'il racontait, on voyait que pour lui, son âge d'or, c'était la France des années... En fait, d'ailleurs, peut-être plus des années 50 que des années 60, parce que dans les années 50, on avait encore un empire, et donc des populations d'origine maghrébine ou noire qui connaissaient leur place dans la hiérarchie dans la hiérarchie sociale et démographique du pays. Donc c'était ça qu'on entendait dans la campagne d'Éric Zemmour. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Sarah Knafo, on voit que, et c'est souvent quelque chose qu'on a plus de mal à thématiser quand on travaille sur l'extrême droite et qu'on essaye de mettre à jour leur discours, c'est que c'est pas seulement des discours qui jouent sur la peur et sur la violence. Il y a aussi, et pour paraphraser Fabien Roussel en 2022, il y a aussi une idée des jours heureux à l'extrême droite. Il y a aussi l'idée que la politique permettra de faire advenir dans le futur quelque chose de mieux. Ce mieux étant souvent très directement connecté au passé. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de la rétrotopie, qui est un concept développé par Sigmund Bauman, dans lequel il montre qu'à la fin du XXe siècle, l'utopie en tant que telle a disparu et a souvent été remplacée par l'idée que le rêve et tout ce qu'on accordait à l'utopie en termes de capacité à susciter l'espoir, à susciter une dynamique vers l'avancée, se trouvait en réalité dans le passé. Et donc il fallait passer par une logique de restauration du passé pour régler les problèmes du présent. Et je pense que c'est un peu ce que fait Sarah Knafo en réalité, toute cette campagne. J'étais complètement d'accord avec ce que dit Raphaël Lorca, cette campagne un peu sautillante, un peu joyeuse, sa robe jaune en couverture du Figaro magazine. Tout ça renvoie à l'image d'une extrême droite très positive. Ça permet complètement de faire passer à l'as ces prises de position qui n'ont pas beaucoup varié depuis 2022, de même d'ailleurs que celle d'Éric Zemmour, ses alliés au Parlement européen, où elle siège, hein, il faut quand même ne jamais oublier de le rappeler, avec les pestiférés de l'extrême droite européenne. C'est-à-dire qu'elle siège avec les partis dont ni le Rassemblement National, ni Giorgia Meloni n'ont voulu dans leur groupe respectif. Elle siège notamment avec les Allemands de l'AFD, chez qui le révisionnisme et le négationnisme est devenu un sport national. Donc, en réalité, quand on voit où elle se situe dans le champ politique français-européen, ça ne bouge pas. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que cette inflexion du discours est un levier qui rappelle aussi que ça existe à l'extrême droite et que le vote d'extrême droite n'est pas seulement un vote de ressentiment, ça joue, mais ça peut être aussi un vote qui joue sur l'adhésion, sur l'idée qu'il y aura un groupe cœur qui profitera de la politique qui sera faite et qui passera forcément par l'exclusion d'une partie de la population.
Magali Lafourcade, et puis on va partir tout de suite à Marseille.
Oui, alors justement, puisqu'on va partir à Marseille, moi je voudrais quand même rappeler à quel point on va assister à un moment très déformant de la réalité du paysage politique français, puisque on met toujours l'accent sur les grandes métropoles. Il ne faut pas oublier que sur les 35 000 communes où il y aura des élections, il y en a 34 000 qui comptent moins de 10 000 habitants. Ça représente 36 millions de Français et 90% du territoire. Et ce qui est dommageable, c'est que on va entendre soit que telle ville a été reprise parce qu'elle est emblématique, comme en 2020, on avait parlé d'une vague verte, alors que c'était pas forcément une vague verte. On sait déjà que certains partis vont dire qu'ils sont victorieux parce qu'ils auront des indicateurs en ce sens-là, et alors qu'il faut absolument rester dans des logiques municipales. Et pour moi, l'enjeu, ça va être de savoir qu'est-ce que c'est que la ville. Est-ce que la ville, c'est un simple rouage administratif où on est dans quelque chose de l'ordre de la gestion. Et là, dans ce cadre, alors qu'on sait que selon l'enquête Fracture française, les maires ont une cote de confiance très élevée, hein, par rapport à tous les autres élus, ils ont 68% de confiance. On sait que y a un risque de sentiment d'impuissance politique qui est déjà ce qui gangrène la confiance dans les institutions et dans la démocratie au sens large, parce que y a des problèmes budgétaires. Les trajectoires des finances publiques de beaucoup de villes sont problématiques, la Cour des comptes l'a rappelé, et beaucoup d'enjeux se passent au niveau de l'intercommunalité. C'est elle qui va pouvoir impulser des grandes politiques de transport, de logement, d'action sociale, etc. Et donc, on peut assister à une dissociation de la vie démocratique et du lieu de pouvoir. Et donc ça, ce serait très, très dommageable. Et ce que j'espère, c'est que ces élections vont permettre au contraire de faire de la résilience démocratique, c'est-à-dire de dire que la ville, ben, c'est un lieu de démocratie citoyenne. J'observe que depuis quelques élections municipales, on a une montée en puissance des listes de participation, enfin des listes participatives et citoyennes. Il y en a de plus en plus et elles demandent une co-décision. Et la co-décision, c'est le fait de casser ce monopole décisionnel des représentants pour pouvoir un peu davantage mettre de citoyens. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis, cette participation citoyenne, c'est aussi un lieu d'émancipation à travers toutes les questions qui sont sous des radars du débat public, c'est-à-dire, quand vous avez des enfants, comment ça va se passer, l'accès aux services publics, le périscolaire, la mobilité quand vous travaillez dans une autre ville que celle dans laquelle vous habitez. C'est quand même la situation d'énormément de Français. Et à cet égard, je voudrais signaler deux initiatives que je trouve particulièrement intéressantes. Il y a 24 ONG et syndicats qui ont demander aux listes de s'engager pour les services publics locaux, des maisons de santé, des lieux de solidarité, de la restauration collective, l'éclairage, enfin des choses extrêmement concrètes. Et c'est la première fois qu'ils font quelque chose comme ça. Et puis, il y a aussi une initiative d'Anticor. Et donc, je voudrais rappeler qu'on est maintenant, selon l'enquête Fracture française, avec 66% des Français qui pensent que la corruption est répandue. Selon le ministère de l'Intérieur, les infractions de corruption ont progressé de 50% entre 2016 et 2024. C'est énorme comme explosion contentieuse. Et Anticor, qui est une association créée par des élus, a demandé à ce qu'il y ait des engagements aussi pour la probité. Et pour des villes comme Paris, par exemple, où on a quand même deux têtes de liste présumées innocentes, mais qui vont avoir un procès pour corruption dans l'année, je trouve que c'est pas inintéressant d'avoir cette conversation-là, puisqu'elle existe dans la tête des citoyens. Personne ne la porte au niveau du débat politique.
Blanche Loredan. Je voulais réagir, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Magali Lafourcade. Pour moi, l'enjeu de ces élections municipales, ce n'est pas tant le test politique au sens strict du terme, mais c'est le test démocratique. Et c'est peut-être le dernier test démocratique dont on dispose avant l'échéance de 2027. Et les conclusions qu'on pourra tirer des résultats, ce n'est pas tant un tel ou une telle parti ou personnalité part avec des atouts pour 2027, mais est-ce que le pays est prêt à l'élection de 2027. Il y aura donc des indicateurs qu'il faudra absolument regarder, et notamment l'indicateur de participation, sachant qu'on sait que les élections municipales font partie de ces élections où il y a encore une vivacité participative forte, alors à l'exception bien sûr de l'élection municipale de 2020 qui s'était tenue pendant le Covid avec des taux d'abstention record autour de 55% au premier tour et de 58% au second, mais sinon on est toujours sur des taux de participation au-delà de 65-68% pour les municipales, ce qui est très bien. Et j'espère qu'on va retrouver une vigueur de participation similaire. Mais pour qu'on ait cette participation-là, eh ben, il faut qu'on ait des campagnes où on parle du fond. Et là, je rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur des campagnes qui sont très axées sur des questions de communication, les couleurs, les slogans, les personnalités qu'on va réussir à rallier. Mais ça, pardon, c'est tout à fait marginal dans la capacité de la politique à changer la vie des gens. Et dernier mot de ce point de vue-là, moi, ce que j'observe, ce qu'à l'Institut Montaigne, on fait à chaque élection municipale et présidentielle, à la fois un bilan des exécutifs sortants. Alors là, en l'occurrence, on n'a pas les moyens de le faire dans les 36 000 communes, mais dans les 12 plus grandes villes de France. Et on regarde l'ensemble dans ces mêmes 12 villes des propositions portées par les principaux candidats. Et on fait toujours des chiffrages et des analyses de faisabilité des programmes qui sont proposés. Et là, ce qui me frappe, c'est qu'on voit les candidats se positionner sur des sujets sur lesquels les maires ne sont pas foncièrement les plus responsables. Et je pense notamment à la question de la sécurité. Bien sûr que les maires peuvent faire de la vidéosurveillance. Et d'ailleurs, on voit une surenchère en la matière dans les programmes. ils peuvent doter davantage leur police municipale ou les armées. Mais en réalité, les questions sécuritaires, elles vont beaucoup dépendre de l'État et de la bonne articulation aussi avec les autres échelons et notamment intercommunaux. Donc il faudrait que là, dans les semaines qui viennent, on arrive à repositionner la campagne à l'endroit où les maires ont de véritables prérogatives aussi pour, disons, faire une forme de pédagogie sur les compétences des uns et des autres, que peut le maire, que peut la région, que peut le département, que peut l'État d'une autre manière. Et si on arrive à avoir ces débats de fond et une campagne qui se tient et qui propose des réponses concrètes dans le champ de faisabilité et des prérogatives des municipalités, on aura peut-être gagné, encore une fois, ce test non pas politique, mais démocratique.
À Lyon, il semblerait que la sécurité, en effet, soit un enjeu de campagne. J'ai vu que Jean-Michel Aulas promettait la fusion des polices municipales et nationales quand le maire sortant écologiste Grégory Doucet prévoit la création d'une brigade anti-incivilité, alors que 63% des Lyonnais, selon un sondage IFOP fiducial, seraient mécontentes sur ce volet de la sécurité. Et j'ajoute le chiffre que je donnais en introduction, qui nous a un peu effarés avec Anne-Claire Bazin quand on a préparé cette émission. 10 millions de Français, c'est le même chiffre depuis 2022, qui sont mal ou pas inscrits du tout sur les listes électorales et peut-être pas assez de campagne de la part de l'État pour mobiliser. Raphaël Yorka, et puis on va aller à Marseille, j'y tiens.
Oui, je voulais juste prolonger rapidement la réflexion de mes camarades sur cette idée de test démocratique qu'a avancé Blanche Léridon. Et je crois que l'une des questions, c'est de savoir si le scrutin municipal conservera son statut d'exception politique. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que il me semble que c'est à l'échelle des communes qu'on trouve encore un rapport à la politique qui ne soit pas dysfonctionnel en réalité. Magali Lafourcade a rappelé les taux de confiance accordés à la figure du maire. Ils sont effectivement très élevés. Ils sont 27 points au-dessus des députés, 46 points au-dessus du président de la République. C'est quelque chose de considérable. Plus impressionnant encore, je suis allé creuser une enquête Ipsos pour l'Association des maires de France. Et les Français interrogés reconnaissaient à leur maire des réalisations concrètes à 71% et une vision pour l'avenir à 71% aussi. Ce sont des scores inimaginables pour des leaders politiques à l'échelle nationale. À l'échelle de la commune encore, les Français sont bien moins pessimistes sur leur devenir collectif. Cette fois-ci, c'est une étude de Destin Commun qui montrait le hiatus assez extraordinaire entre le local et le national. À l'échelle nationale, 88% des Français considèrent que le pays va dans la mauvaise direction. Et à l'échelle locale, seulement 27% des Français considèrent que leur qualité de vie s'est dégradée dans leur commune au cours du dernier mandat municipal. Donc on voit bien qu'il y a des perceptions très différentes selon qu'on bouge d'échelle. Et d'ailleurs, s'il y a une institution médiatique qui l'a bien compris, c'est le journal télévisé, puisqu'il y a une excellente note de Mathieu de Priec à la Fondation Jean Jaurès qui s'est interrogé sur la façon dont les journaux télévisés traitaient la figure du maire. Et il montre qu'il y a une sorte d'opposition systématique entre d'un côté le gentil maire, seul, écrasé par les normes, tout ce qui vient lui dessus, et le méchant député qui serait toujours en train de manigancer dans son coin. Donc c'est rigolo comment est-ce que même dans l'imaginaire télévisuel, les journaux télévisés insistent sur ce hiatus. Et dernier élément, et c'est le journal Le Monde qui nous le montrait, il n'y a jamais eu autant de députés prêts à abandonner leur siège à l'Assemblée nationale pour se porter candidat. 90 députés sur 577 sont cette année candidats au scrutin municipal. Il n'était que 63 en 2020.
Vous écoutez l'Esprit public sur France Culture et nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Yorka qu'on vient d'entendre, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, enseignant à Sciences Po, avec Blanche Leridon, directrice des études France à l'Institut Montaigne, avec Magali Lafourcade, magistrate, et avec l'historien Baptiste Roger Lacan.
Je me suis déjà présenté à des élections et il était évident pour moi de dire que jamais Marseille ne tombera. Jamais Marseille ne tombera dans les extrémistes. Jamais Marseille ne sera dirigé par le Front National, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et ça ne passera pas comme ça. Mais surtout dire que Marseille doit être la vitrine nationale de la lutte contre le narcotrafic. Que Marseille doit être un exemple en termes d'accompagnement. Je vois ma maman, à qui je dis merci. Merci d'être debout, merci de me faire tenir debout. Et on peut l'applaudir, parce que c'est sans elle, je ne saurais rien.
Le militant anti-drogue Amine Kessassi qui rejoint le maire sortant Benoît Payan à Marseille, c'était cette semaine. Qu'avez-vous pensé les uns et les autres de cette prise de guerre, de son discours et peut-être plus généralement sur la gauche? Vous avez sans doute aussi entendu le numéro 2 du Parti Socialiste Pierre Jouvet qui appelle finalement à peut-être faire des alliances avec LFI au cas par cas. On avait cru comprendre que ce ne serait pas le cas. Un dernier tour de table et puis ensuite on ira tranquillement se projeter vers la présidentielle qui semble aussi se préparer, notamment à gauche. Raphaël Yorka.
Alors, ce qui se passe à Marseille, quand on ne regarde pas de près l'actualité politique dans cette ville-là, on est assez surpris des scores très importants qui sont annoncés par le Rassemblement National, à hauteur de 40%, donc il y a une égalité avec Benoît Payan. Et c'est quelque chose que des acteurs terrain me faisaient remonter depuis maintenant plusieurs années. Et c'était quelque chose qui semblait bruisser comme une espèce de faille sous l'iceberg, qui était tout à fait invisible et qui, à partir du moment où les thermomètres ont mis le doigt sur la situation, ont tout à fait explosé au visage. Du côté du Rassemblement National, il y a la volonté de faire le coup équivalent à l'échelle de l'extrême droite, ce qui a été la prise de Paris en 2001 par Bertrand Delanoë. C'est-à-dire cette idée sur laquelle on prend une ville très importante, on en fait un levier, une sorte de marqueur pour projeter leur parti dans une autre dimension. Donc là, il y a quelque chose de très important à l'échelle du Rassemblement National. Et peut-être une autre dimension qui me semble très importante, c'est que il y a 6 ans, c'était le printemps marseillais qui avait remporté la ville à l'issue d'une campagne. Justement, Magali Lafourcade a beaucoup parlé des enjeux de participation démocratique, etc. Il y avait une sorte d'enthousiasme issu de la société civile, avec notamment des bastions, la mairie du 6e et 8e arrondissement qui n'avait jamais basculé, qui avait toujours été à droite. C'est Olivia Fortin qui l'avait fait basculer. Il y avait une excellente note de stratégie politique qui avait été publiée à la Fondation Jean-Jaurès. Ils avaient appelé ça la diplomatie du poulet. Parce qu'il se trouve que pour réunir toutes les personnalités de la gauche locale, la société civile qui était en désaccord, en réalité, c'est le poulet du dimanche soir pendant des semaines et des semaines qui avait réalisé une sorte de convergence politique. Bon, toute cette énergie, toute cette vitalité que l'on avait vue il y a 6 ans, on a peine à la retrouver cette fois-ci à Marseille. Et je crois que à l'échelle de l'ensemble des autres listes participatives, il y a vraiment un enjeu de savoir que deviennent cette énergie, ces mobilisations lorsqu'elles ont exercé le pouvoir et comment conserver cet élan de la campagne lorsqu'on a effectivement été en charge pendant plusieurs années.
Blanche Loredan.
L'originalité avec Marseille, c'est qu'effectivement, les échelons municipaux et nationaux se mêlent peut-être même davantage encore qu'à Paris. Parce que il y a quelqu'un qui a beaucoup investi cette ville-là, c'est aussi le président de la République. Marseille en grand, il a fait beaucoup de déplacements. Et donc, d'une certaine manière, il joue lui aussi, en sous-main, un petit peu son bilan à lui dans cette ville-là. Et d'ailleurs, l'absence totale de candidats crédibles de son camp est assez révélateur de son incapacité à avoir réussi à cranter quelque chose dans cette ville-là. Enjeux nationaux aussi, parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella eux-mêmes sont très impliqués dans ce scrutin-là. On sait que Marine Le Pen s'y est déplacée en janvier, qui sont pourtant pas ses terres d'origine ni de prédilection. Elle y est allée alors même qu'elle était en plein dans son procès, ce qui marque la volonté du parti de s'impliquer dans cette campagne-là. On sait que Jordan Bardella avait lui aussi évoqué son souhait que son parti puisse remporter la ville de Marseille. Donc on voit là, dans cette ville, peut-être plus que jamais, en tout cas d'une manière assez nette, l'implication des organes nationaux dans ce qui pourrait se passer sur le terrain. Mais l'extrait que vous avez diffusé, il est aussi pour moi révélateur d'un autre sujet, d'une autre dimension. C'est l'arrivée massive de cette question du narcotrafic dans la campagne. C'est-à-dire que ça, pour le coup, s'il y a un élément nouveau, je disais que la sécurité était déjà présente dans les campagnes de 2020. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Enfin, plutôt navrant d'ailleurs que drôle, mais quand on regarde, nous, à l'Institut, on les publiera à partir de la mi-février, mais les campagnes, on a un peu l'impression qu'on a des copier-coller sur les volets sécuritaires de ce qu'on avait en 2020, sauf que des policiers municipaux, on en met un petit peu plus, des vidéosurveillances, on en met un petit peu plus aussi, et cette question qui était très à droite au début, elle imprègne finalement tout le spectre politique aujourd'hui. Mais cette question du narcotrafic, elle est, d'une certaine manière, assez neuve, et elle doit être adressée avec la limite que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le maire ne peut pas tout sur des questions pareilles et qu'il doit plutôt axer sa campagne sur quel type de lien il va créer avec les responsables nationaux, quel type de partenariat et de dialogue est-ce qu'il pourra créer pour appréhender. Voilà, la police judiciaire, c'est pas du ressort des municipalités. Donc il y a là aussi, je crois, sur des sujets si grave et si important, un vrai besoin de pédagogie aussi, et d'expliciter comment est-ce que une bonne articulation avec l'ensemble des échelons permettra d'adresser des sujets comme celui-là.
J'entendais d'ailleurs cette semaine Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris, dire exactement ça. C'est pas de mon ressort les tentes de migrants ou la sécurité, mais je m'en occuperai comme maire de Paris, comme s'ils avaient intégré.
C'est ça, mais tout le monde n'a pas la lucidité de le reconnaître, que le maire ne peut pas tout. Et je crois qu'il y a un devoir de sincérité sur là où commencent et là où s'arrêtent les prérogatives municipales.
Baptiste Roger-Lacan.
Deux choses. La première, c'est qu'il me semble que Marseille, effectivement, est une ville qui cristallise l'intérêt de pas mal de nos dirigeants nationaux, puisque avant Emmanuel Macron, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui a voulu faire de cette ville un symbole. Et on voit pourquoi. C'est la capitale du Sud, c'est la grande métropole la plus éloignée, ou la mégapole la plus éloignée de Paris. C'est une ville avec une identité très forte. Donc, ça permet de contrebalancer dans une Ve République toujours plus centripète, toujours plus organisée à Paris, toujours plus verticale et hiérarchique, dans laquelle on a l'impression que les quatre actes de la décentralisation se sont juste traduits en réalité par plus de pouvoir au centre et toujours moins en dehors de Paris. Donc, effectivement, réussir à mettre la main sur Marseille, c'est réussir à se déparisianiser, réussir à, en gros, afficher un autre visage. Ce qui est intéressant, c'est quand même le sentiment justement que Marseille résiste toujours à ces tentatives d'appropriation, que la campagne à laquelle on assiste, même si elle n'a pas la dynamique qui a été celle de 2020, se joue aussi beaucoup sur des questions marseillaises, mais par contre que son résultat, lui, aura un écho national. Si jamais Benoît Payan l'emporte, c'est a priori parce que la gauche non-FI aura fait des accords. En tout cas, il y aura eu des négociations entre les appareils de la France insoumise et des autres partis de gauche. Et si le Rassemblement national l'emporte, à nouveau, c'est la deuxième ville de France qui tombe entre les mains du RN. Pour la première fois depuis les années 30, on aura un maire d'extrême droite à Marseille. Et la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé du tout. Donc, il y aurait cet énorme symbole-là. Et la deuxième question que je trouve intéressante, toujours un peu cette question de l'articulation des échelles en France, c'est cette question du narcotrafic. Le fait qu'elle explose, alors, est évidemment lié à l'explosion du narcotrafic, enfin, en tout cas des conséquences les plus visibles du narcotrafic, c'est-à-dire la criminalité armée, les homicides depuis quelques années. Mais c'est aussi parce que c'est une des questions, je pense, qui le plus par excellence lie les questions locales aux questions nationales. C'est-à-dire que le narcotrafic, c'est d'un côté des enjeux ultra locaux, c'est-à-dire que bah, globalement, si vous avez un point de deal en bas de chez vous, ça fait très concrètement chuter la valeur de votre immobilier. Si jamais, alors s'il n'y a pas de guerre entre gangs, c'est tranquille, mais dès qu'il y a des conflits, ça veut dire que tout d'un coup, vos conditions de vie vont se dégrader très rapidement. Et puis en même temps, c'est une question qui se joue à l'échelle nationale, parce qu'on parle de business qui valent des dizaines de milliards d'euros. Et là, je pense que à nouveau, ça articule quand même dans la réponse aussi, on voit bien que c'est cette double question qui se pose. D'une part, parce que on voit bien qu'à l'échelle locale, les élus en sont réduits à gérer la crise en permanence et essayer en gros d'éviter que s'étende l'emprise du narcotrafic sur leur territoire. Et à l'échelle nationale, on voit bien que pour l'instant, nos dirigeants ont du mal à s'emparer de cette question, notamment à mon sens, hein, parce que la question de la légalisation n'est pas posée depuis 20 ans, qu'on est l'un des pays, sinon le pays d'Europe, avec la politique prohibitionniste la plus bétasse et la plus systématique, et donc, à mon avis, qui fait de la France un territoire dans lequel on peut facilement faire prospérer le narcotrafic. Bref, je pense que cette question articule justement toutes les tensions qui se jouent justement à ce jeu d'échelle très français, et qui, par ailleurs, moi, je pense, sont symptomatiques d'un épuisement, alors peut-être pas de la Ve République, mais d'un épuisement du centralisme quinto-républicain.
Il est 11h38 sur France Culture, vous écoutez L'Esprit Public, on parle des élections municipales et de la présidentielle qui se prépare. Un dernier mot sur ces élections avec vous, Magali Lafourcade, des élections municipales. Vous qui parliez de Montpellier tout à l'heure, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Blanche Le Ridon, le printemps montpelliérain est une forme aussi de voilà d'écologisme, de rassemblement des gauches, enfin très divisé en l'occurrence, hein, vous le disiez tout à l'heure, et qui semble perdre du terrain puisqu'une dizaine de colistiers sont partis chez la candidate insoumise cette semaine.
Oui, on voit à quel point ça devient extrêmement difficile à lire ce qui se passe à l'échelon local, puisque comme nous ne sommes plus du temps de la démocratie des partis, il faut bien voir aussi en sciences politiques, on a changé d'époque, nous sommes dans la démocratie d'opinion, la démocratie du public, ce qui fait que les personnalités comptent plus que les appareils. Et donc on peut avoir des recompositions comme ça. Je voudrais rebondir très rapidement sur deux éléments. Donc Raphaël Yorka a dit tout à l'heure sur le fait qu'à Marseille, on pouvait voir c'est un révélateur de la progression du Rassemblement National, et ce sera sûrement l'un des grands vainqueurs de ces municipales, parce que jusque-là, bon, ils partent de très bas, ils avaient qu'une dizaine de villes de plus de 10 000 habitants, donc il va y avoir sûrement une progression. Donc ça, ça doit nous interpeller sur les recompositions aussi au niveau dans le cadre de la présidentielle, et puis sur ce qu'a dit Baptiste Roger Lacan sur le narcotrafic. On voit bien là l'impuissance publique mise en œuvre quand on parle de narcotrafic. On sait qu'une approche purement sécuritaire, voire communicationnelle, avec des places nettes XXL, avec l'idée d'attaquer toujours le consommateur comme si les autres ministres de l'Intérieur n'y avaient jamais pensé, c'est finalement une vision à très courte vue. Il faut englober ces enjeux au niveau sécuritaire, bien sûr, mais aussi social, sanitaire. C'est extrêmement important, et c'est là où on pourrait enfin faire de la démocratie intelligente en mêlant les différents échelons, puisque le maire, comme l'a dit Blanche Lérinon tout à l'heure, a certaines prérogatives. Si tout cela devenait cohérent avec une stratégie d'ensemble, on pourrait peut-être améliorer les choses sur le terrain.
Je suis candidat à cette primaire, et à travers elle, je suis candidat à la présidence de la République française. Pourquoi ? Pour qui je suis candidat ? Je suis candidat pour les 8 millions de personnes qui ont tenu le pays debout pendant la crise Covid, livreurs, camionneurs, caissières, infirmières, à qui on avait promis reconnaissance et rémunération. La personne qui vient le matin pour nettoyer vos locaux à TF1, qui fait pareil à l'Assemblée ou dans les gares, partout dans le pays, ces horaires-là, tôt le matin, tard le soir, en dehors de ces heures de bureau, seront payés double. Ça, c'est pour le bas. Mais il y a pour le haut. Vous savez, je suis un député qui se paye au SMIC. Eh bien, comme président de la République, ça sera pareil, ça sera le SMIC.
François Ruffin, lundi 26 janvier, au journal de 20h de TF1, il est candidat à cette primaire de la gauche unie sans LFI ni Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir, Raphaël Yorka ?
Peut-être d'abord une observation générale en écoutant François Ruffin. On a quand même le sentiment que ça fait plusieurs mois que le débat public était comme pris dans la glace, quoi. C'est-à-dire que la vie politique était d'un côté pris en tenaille ou immobilisée par la très longue séquence budgétaire qui nous enfermait dans des débats d'équilibre parlementaire et de budget. Et d'autre part, cette situation internationale dont on a beaucoup parlé dans cette même émission, qui a eu pour effet de laisser la classe politique française dans un rôle de vraiment de spectateur assez passif. Là, on a l'impression cette semaine que les choses se dégèlent. Elles se dégèlent, et notamment par cette entrée en campagne de François Ruffin, sur peut-être deux remarques. La première, sur une ligne politique qui lui correspond peut-être davantage. On se souvient peut-être de cette une du Nouvel Obs de novembre 2022, où il proclamait « Je suis social-démocrate », et qui était une façon, au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, de vouloir incarner une sorte de barricade de la gauche, et donc de se retourner davantage vers, disons, une gauche plus moderne, plus social-démocrate. C'est un détail, mais c'est assez révélateur. Il s'était mis à endosser des costumes, ce qui est quelque chose de très inhabituel chez François Ruffin. Là, excite cette histoire de recentrage social-démocrate. Il revient à une ligne qui correspond peut-être davantage à son ADN, à son parcours, qui est davantage radical, davantage populaire. Sur le fond, on l'a entendu dans l'extrait, c'est cette proposition du premier président au SMIC. Et sur la forme, on le revoit avec son pull rouge et sa veste en cuir. Et je crois que c'est quelque chose de travaillé. Deux éléments en termes de récit politique, et pour le coup on l'a pas entendu là, on l'a davantage entendu dans son clip de campagne, il est sur une ligne « nous président ». Je trouve quelque chose d'assez intéressant. Alors, d'une part, parce que dans l'imaginaire de gauche, c'est le contre-pied de la tirade de François Hollande. On s'en souvient tous lors du débat qu'il opposait à Nicolas Sarkozy en 2012, lorsqu'il disait « moi président, moi président, moi président ». Donc lui, il met en scène le « nous président ». Et dans son clip de campagne, qui s'intitule « Mes cahiers d'espoir », Il y a quelque chose d'assez réussi parce qu'il se met en scène avec ces tonnes de carnets qui manifestement il noircit depuis bientôt 25 ans, où il prend des notes partout où il va, dans ses déplacements, dans ses luttes, et il y a aussi des cahiers de joie et des cahiers d'espoir. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire cette volonté de remettre une sorte de mouvement non pas descendant d'homme providentiel qui a une vision incarnée. Lui, au contraire, cherche à se mettre en scène en disant, vous savez, moi, je ne suis pas né pour être président, c'est ce qu'il raconte sur TF1, mais je suis habité par mille voix, mille vies, mille visages. Donc c'est ce mouvement un peu ascensionnel qui fait, je crois, beaucoup de bien à gauche. Alors il y a évidemment énormément de défis. D'abord, cette primaire qui a été annoncée, d'ailleurs, on a un peu le sentiment que l'annonce de candidature François Ruffin a un peu éclipsé cette annonce d'une primaire, vous l'avez annoncé en introduction à Astrid de Villene, qui se tiendra le 11 octobre prochain. Est-ce que ce sera une primaire geyser, comme le dit François Ruffin, c'est-à-dire une primaire de débordement où il y aurait 1-2 millions de personnes qui viendraient assister, auquel cas ce serait un succès populaire. Deuxième élément, comment s'imposer comme le leader de la gauche non LFI, parce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a un concurrent qui s'appelle Raphaël Glucksmann et qui a refusé de faire partie de cette primaire. Et on se souvient peut-être, ils avaient échangé une série de lettres entre François Ruffin et Raphaël Glucksmann qui montraient bien les oppositions de vision du monde et programmatique. Donc comment est-ce qu'il pourrait s'imposer par rapport à ça? Et puis dernière question, quelle relation avec Jean-Luc Mélenchon? On a bien compris qu'il avait acté une rupture dans l'entre-deux-tours de la dissolution lors des dernières législatives de 2024. Si Jean-Luc Mélenchon était le candidat le mieux placé dans les sondages, que ferait un François Ruffin? Je crois que le doute existe encore dans l'électorat de gauche.
Cette primaire Baptiste Roger-Lacan qui semble vouloir s'appeler Front Populaire 2027... Qu'en pense l'historien?
Il y a deux choses. Alors, la première, c'est est-ce que c'est bien raisonnable de faire une primaire? Pour l'instant, il y en a une qui a fonctionné. Sinon, tous les partis qui ont utilisé, qui sont passés par la primaire pour déterminer leur candidat ont échoué aux élections présidentielles. Donc, je pense qu'il y a peut-être une interrogation sur l'utilité des primaires dans un système à deux tours. Peut se poser. La deuxième, c'est que cette référence au Front Populaire, elle est intéressante à au moins deux égards. Bon, la première, c'est évidemment d'aller chercher une référence historique totémique à gauche et à raison. En 1936, un peu plus de deux ans après le 6 février 1934, les gauches unies remportent les élections législatives, font passer un certain nombre de réformes historiques, symboliques dans l'histoire du mouvement ouvrier en France. Et puis surtout, ce dont on parle moins peut-être, c'est ce qui se passe entre 34 et 35, c'est-à-dire le rapprochement entre les appareils, notamment socialistes et communistes. Enfin, il ne faut pas sous-estimer aussi l'ampleur que ça représentait pour les radicaux à l'époque de se rapprocher des communistes après 15 années de détestation ouverte. Si on trouve qu'en ce moment, les affrontements entre dirigeants de la France Insoumise et dirigeants du PS sont durs, il faut vraiment regarder ce qui s'écrit dans le populaire, dans l'humanité, dans les années 20 et dans les années 30. On voit vraiment que la conflictualité entre les partis de gauche est extrêmement forte. Donc, évidemment, cette référence au Front Populaire, elle est pas anodine. Je pense que à gauche, en tout cas hors LFI, il y a cette conviction que la seule manière pour la gauche d'exister au second tour à l'élection présidentielle et donc d'avoir une chance de l'emporter, surtout si la configuration fait qu'en face, il y a un candidat ou une candidate du RN, passera par une logique d'union et de concentration au premier tour, parce que à l'heure actuelle, il semble que l'électorat de gauche pèse entre 30 et 36, 37% de l'électorat, donc fragmenté, il diminue d'autant ses chances d'arriver au second tour. Donc évidemment, la logique de Front Populaire a du sens. Ce rappel historique, cette mémoire-là, elle a du sens. La question, c'est est-ce que ce diagnostic est partagé à la France Insoumise? On a l'impression pour l'instant que la logique qui prédomine est plutôt celle d'une érosion des autres électorats de gauche par la France Insoumise. En gros, de refaire l'opération de 2022 où Jean-Luc Mélenchon s'était imposé en faisant du premier tour une primaire de la gauche. Mais il n'est pas arrivé au second tour. Donc je pense que c'est comme toujours, c'est aussi une question peut-être d'un sens du danger hein, qui serait celui des partis de gauche. En réalité, ce qui a fait que le Front Populaire a eu lieu, c'est le 6 février 1934. La première conséquence du 6 février 1934, c'est le Front Populaire. La deuxième, ça se discute, les historiens en parlent, mais c'est le 10 juillet 1940, c'est les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Mais la première étape, c'est que face à l'émeute et face dans un contexte international extraordinairement dégradé, un an après la prise du pouvoir par les nazis, 12 ans après la marche Rome, les partis de gauche en France se sont dit qu'il fallait chercher une solution pour éviter, pour faire un front antifasciste. Ils avaient une lecture du 6 février 34 comme un coup fasciste. Ça a été assez remis en question par l'historien aujourd'hui, mais ça n'enlève rien au fait que sur le moment, ça a été ressenti comme tel. Et donc, que de ce point de vue-là, ça met en place cette logique d'union. Une fois de plus, c'est difficile de savoir à l'heure actuelle si ça prendra.
Blanche Loredon, un léger désaccord avec Baptiste Roger-Lacan sur la question de la primaire. Déjà, rappeler quand même, hein, parce qu'on a tendance un petit peu à disqualifier dès le départ la primaire, notamment à gauche. 2011, ça avait quand même, je crois, 2,9 millions d'électeurs s'étaient déplacés au second tour pour départager entre les candidatures de François Hollande et Martine Aubry. Celle-ci, effectivement, avait particulièrement bien fonctionné. Mais la primaire de la droite et du centre en 2016, elle avait très bien fonctionné aussi. Et si François Fillon ne se qualifie pas au second tour de la présidentielle, ça n'a rien à voir avec la primaire. Et donc c'est vrai qu'on a eu un peu tendance à diaboliser la primaire de ce point de vue-là, alors même qu'elle n'était en rien responsable de l'aboutissement du scrutin. Après, c'est vrai, comme le disait Magali Lafourcade à l'instant, comme on a basculé de ce que vous qualifiez la démocratie des partis à une démocratie de la communication et des personnes, on peut s'interroger sur l'utilité de ces primaires-là. D'autant qu'on récolte aujourd'hui les fruits de ce que j'appelle la jurisprudence Emmanuel Macron, à savoir cette conviction certaine que l'on peut finalement y arriver en s'émancipant de toute machine partisane et que l'homme providentiel, le seul et tout puissant, sans parti, sans appareil, peut l'emporter. Sauf que ce qui a marché en 2017, par nature, se reproduit rarement deux fois. Et donc, on aurait pu tirer précisément les conclusions totalement inverses et se dire que après cette expérience-là, qui par ailleurs a été renouvelée et qui se termine quand même avec une impopularité, un détricotage massif de l'ensemble des mesures qui ont été adoptées ces 8 dernières années, peut-être que tout ça nous inciterait à revenir à quelque chose comme l'état précédent, avec une logique partisane peut-être un tout petit peu revigorée, et c'est pas le cas. Et là, c'est vrai que dans la primaire du 11 octobre de la gauche, ce qui marque essentiellement, ce sont les absents, à savoir Jean-Luc Mélenchon, ce qui est pas surprenant, et Raphaël Glucksmann, ce qui l'est peut-être davantage. Et c'est là où je voudrais renouer avec ce que vous disiez, Baptiste Roger-Lacan, sur 34, avec l'analogie 34-36. Ce qui émerge, semble-t-il, dans la candidature de Raphaël Glucksmann, c'est un peu ça. C'est face au péril démocratique. Moi, je suis le grand défenseur de la démocratie libérale. C'est d'ailleurs un peu comme ça sur la Géorgie, sur d'autres situations internationales que lui est arrivé en politique. Alors non pas dans le contexte purement français, mais dans un contexte plus européen. Et cette question de la démocratie en danger, qui, on le sait, est malheureusement pas une question qui fait vendre en campagne. Souvenez-vous, Kamala Harris, pendant l'élection présidentielle américaine, la protection de la démocratie américaine était au cœur de son engagement et ça ne lui a pas permis de l'emporter. Donc est-ce que la défense de la démocratie libérale, les périls qui pèsent sur elle aujourd'hui seront des arguments de campagne suffisamment mobilisateurs qui pourraient notamment venir nourrir la campagne d'un Raphaël Glucksmann qui refuse pour l'instant de s'embarquer dans une aventure plus collective et de participer à cette primaire-là? C'est une question, je crois, absolument centrale, mais pour moi, elle nécessite par essence d'être abordée de manière beaucoup plus collective avec tous ceux qui, éventuellement, et partageant ces idées bien sûr, pourraient se joindre à cette entreprise-là et sans bien sûr minorer un certain nombre d'autres questions qui, pour l'instant, dans la candidature de Glucksmann, sont peut-être plus marginalisées, et notamment la question sociale.
Baptiste Roger-Lacan.
Je voudrais juste une chose, hein, dans le prolongement de ce qu'a dit Blanche Léridon, c'est que je pense par ailleurs que l'énorme différence entre 36 et aujourd'hui, c'est la forme du régime, c'est qu'en 36, les élections se font dans un cadre d'un régime parlementaire. Les leaders des trois partis s'affichent ensemble. Il n'y a pas le sentiment, il n'y a pas cette obsession de l'aventure individuelle qui est une conséquence de la Ve République et qui fait d'ailleurs que les processus d'union à gauche sous la Ve si on accepte 80, mais depuis les années 90, se sont toujours faits après la présidentielle, après la victoire. Donc après une tentative d'union, mais une fois qu'il y a un parti qui s'est imposé et qui dicte ses conditions aux autres. Et donc je pense que là, typiquement, on voit bien que la gauche est tiraillée entre le sentiment qu'elle pourrait sortir de scène dès le premier tour pour la deuxième, la troisième élection d'affilée, et en même temps, et en même temps, l'impossibilité de trancher entre tous ceux qui se rêvent d'un destin élyséen et qui rêvent en fait d'être la grande incarnation de l'antifascisme.
Il nous reste quelques secondes avant de passer à vos coups de cœur, juste pour rajouter dans ce que vous venez de nous dire, Blanche Loridon, que Gérald Darmanin, puisqu'il y a aussi un embouteillage au centre, songe à la présidentielle, a-t-il dit dimanche dernier sur LCI. Il se dit favorable à une primaire, pas la meilleure solution selon lui, mais la seule pour départager sans doute Édouard Philippe, Gabriel Attal et d'autres. Et j'ajoute la une de la Tribune dimanche que vous avez peut-être vue aujourd'hui en kiosque, l'offensive des patrons pour 2027. Selon un sondage, 58% des Français pensent qu'un chef d'entreprise ferait un bon président. Magali Lafourcade, Raphaël Yorka, et on passe au coup de cœur.
Alors, juste, moi, je pense qu'il faut dissiper une illusion qui serait qu'en 2027, il y aurait une clarification idéologique parfaite et qu'on reviendrait au fait majoritaire. Je crois qu'on est dans un système politique qui n'arrive plus à gérer les contradictions liées au fait qu'on est rentré dans une pluridimensionnalité politique. On est moins sur des fractures gauche-droite classiques. Et donc, on a des rapprochements qui sont en cours, et ce qui fait qu'on a un an de la présidentielle, on a quand même une élection qui sera très ouverte dans le sens où on connaît, à part Jean-Luc Mélenchon, on connaît pas le nom des candidats de chacun des partis. On est loin du but. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'on pense que on est dans un débat public fermé, alors que de plus en plus il faut parler quand même d'ingérence. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon la persistance d'une stratégie d'ingérence dure, hein, de la part des Russes, des Iraniens, etc. Mais s'ajoute à ça le fait que d'un point de vue systémique, notre débat public est hébergé par des plateformes américaines, chinoises ou russes qui peuvent aboutir à ce qu'on peut appeler une stratégie narrative, c'est-à-dire arsenaliser dans le débat public certaines thématiques de façon très puissante, avec pour finalité de créer du doute, de la défiance vis-à-vis des institutions. Et j'ai vu par exemple passer, pour illustrer, dans le rapport de l'Institut Montaigne, le fait qu'un Français sur deux doute de la sincérité des résultats électoraux. C'est énorme, alors qu'on a objectivement une solidité de notre système électoral en France. Donc on peut voir que la France est devenue une cible, et donc dans ce cadre-là, elle est une cible parce qu'elle est puissante sur le plan au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une puissance nucléaire, elle a une armée, elle est extrêmement importante en Europe, et il y a un dessein américain, actuellement, par l'administration Trump, d'avoir des alliés civilisationnels, c'est comme ça qu'ils les appellent, en Europe. Et donc, il y a l'idée d'aligner les intérêts américains avec les partis politiques qui prendraient le pouvoir en France dans des puissances européennes d'importance.
Et on reparlera sans doute des ingérences dans cette émission. C'est déjà l'heure des coups de cœur. Pardonnez-moi, Raphaël Yorka, vous allez nous donner le vôtre en premier.
Coup de cœur.
Oui, c'est pas grave, il y a une petite virgule, comme on dit en radio, pour les coups de cœur. On vous écoute, Raphaël Yorka.
Et j'ai parlé sur la virgule.
C'est pas grave, hein. Essayiste, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique, auteur du roman national des marques aux éditions de l'Aube. Allez-y.
Alors, mon coup de cœur, il est musical cette semaine avec la sortie du premier album de Sam Sauvage qui s'intitule Mesdames et Messieurs, qui s'est sorti le 30 janvier dernier. Sam Sauvage a 25 ans, il vient d'être nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation masculine. Il a passé 10 ans dans les bars, les restos, les petits concerts. Moi, je le suis depuis plusieurs années. Et en réalité, il est en train d'exploser dans la presse musicale. Plein de petits bijoux électropop. Et notamment le morceau Un cri dans le métro avec des textes très sociaux. Il se glisse dans la peau d'un homme qui fait la manche dans le métro et qui a bout de nerfs contre l'indifférence des passants et des passagers. C'est, voilà, mesdames, messieurs, Sam Sauvage.
Baptiste Roger Lacan, historien chargé de recherche à la Fondation Napoléon, directeur de l'ouvrage collectif Une nouvelle histoire de l'extrême droite au seuil.
Dans mon cas, c'est aussi un coup de cœur musical. C'est l'album Arcadia, réalisé par Alison Krauss et Union Station, qui est un album de country qui est sorti il y a quelques mois, qui est absolument magnifique sur. Qui est une magnifique variation sur ce grand style, ce grand genre de la musique américaine.
Blanche Loridon, directrice des études France de l'Institut Montaigne. Vous avez sorti ce rapport dont on parlait avec Magali Lafourcade, Démocratie, les nouveaux chemins du civisme.
Alors moi, mon coup de cœur, une fois n'est pas coutume, il est en lien un petit peu avec l'émission, c'est pour un documentaire qui s'appelle « Les Glucksmann, une histoire de famille » que l'on doit à votre confrère Steve Durdin, documentaire produit par Caméra Subjective. C'est assez fascinant, en réalité, ça revient à la fois sur le grand-père espion de Raphaël Glucksmann, Ruben Glucksmann, qui avait été recruté par le Comintern, et puis on revoit évidemment toute la trajectoire du père de Raphaël Glucksmann, André Glucksmann, qui au départ a été un adhérent convaincu du Parti communiste et puis qui claquera la porte en 56 et qui devient un anti-marxiste notoire. Et se mêle l'histoire de cette famille hors norme à l'histoire politique du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est un excellent documentaire pour le dimanche soir. Je recommande à nos auditrices et à nos auditeurs.
Magali Lafourcade, magistrate, présidente de l'Institut français des droits et libertés. Votre dernier livre, La justice en procès, les populistes à l'assaut de l'état de droit.
Alors moi c'est un podcast, donc c'est pas musical mais c'est toujours dans l'écoute, ça s'appelle Les Enfermés et c'est fait par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. 6 épisodes pour aller sur la réalité de la privation de liberté et là on est vraiment dans l'humain.
Merci à tous les quatre de nous avoir suivis. Vous venez d'écouter L'Esprit Public sur France Culture, une émission disponible sur le site de France Culture, l'application Radio France et toutes les plateformes de podcast. Merci de nous avoir suivis, à dimanche prochain.